Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Patience Ngalula Mbombo. D'abord les titres. Insécurité grandissante dans la ville de Goma. La société civile locale tire la sonnette d'alarme. Des bandits armés ont semé la terreur la nuit de lundi à ce mardi dans plusieurs quartiers de la ville. Tragédie dans les Tanganyika. Un crocodile a happé une femme et son fils. Les restes de leur corps ont été retrouvés ce lundi au village Kilindila sur le littoral du lac Tanganyika dans les territoires des Kalemi. L'invité de ce journal est Luc Kabunangu, expert en audit interne. Il fait le point sur les missions de contrôle et suivi des entreprises dans le secteur de la sous-traitance, facteur favorisant la bonne gouvernance dans ces secteurs. Bonsoir. Avant d'aller plus loin, cette information qui vient de nous parvenir, le président de la République se porte bien. Félix Tshisekedi, parti pour des soins en Belgique, annonce son retour au pays dans les tout prochains jours. C'est ce qu'affirme sa porte-parole que nous venons de joindre il y a quelques minutes. Au Nord Kivu, la coordination de la société civile de Goma en appelle à l'intervention de la 34e région militaire au regard de la montée de l'insécurité à travers la ville. Dans la nuit de lundi à ce mardi, des coups de feu ont retenti dans la majorité des quartiers nord de la commune de Karisimbi. Des bandits ont opéré dans diverses résidences particulières à partir de minuit jusqu'aux environs des 3h du matin. Ndosho, Kasika, Mabanga Sud, Majengo ainsi que Bujovu dans les périmètres de l'aéroport de Goma, tels sont les quartiers qui ont connu une nuit agitée. On écoute à ce sujet Marion Ngavo, président de la société civile Coordination urbaine de Goma, dans cet extrait choisi par Chris Mukand.
Dans le quartier Mabanga Sud, par exemple, dans les avenues Moucha, Nyanya et Amani, des bandits ont visité plus de 10 maisons. Dans le quartier Kasika, dans l'avenue Mueso, des bandits ont dévalisé plus de 5 maisons. Heureusement qu'il n'y a pas eu perte en vie humaine. Et heureusement, dans ce quartier, Kasika, un major, a réussi à résister pour les bandits et les a fait partir après 1h30 de tentative. Donc, c'est de l'argent qui est volé, c'est des portes qui sont cassées, des téléphones et des télévisions. Nous demandons à la 34e région de savoir gérer toutes les unités militaires qui sont à Goma, qui attendent les fonds, de bien vouloir gérer les Wazalendo. Parce qu'il y a aussi des faux Wazalendo. La nuit, ils ne font que tuer et blesser les populations. Nous demandons donc à la population d'être vigilante. Quand on voit les gens suspects la journée, il faut vraiment les dénoncer.
Entre-temps, sur la ligne des fronts, la situation demeure tendue ce mardi dans l'enclave de pêche de Nyakakoma. Nous sommes toujours au Nord Kivu. C'est sur la côte sud-est du lac Édouard, dans les parcs nationaux de Virunga. Certaines sources affirment que les rebelles du M23 qui auraient renforcé depuis lundi soir leurs troupes à Ishasha avanceraient depuis ce matin vers ces villages de pêche. Par conséquent, la panique se propagerait actuellement dans cette entité où sont concentrés tous les combattants Maïmaï et FDLR après leur repli de l'axe Ishasha-Nyamilima. Si jusqu'à cette fin de matinée, les rebelles M23 ne sont pas encore à Nyakakoma, sur place, les déplacements de certains habitants quittant l'enclave par pirogue vers les Grands Nord s'intensifient. Restons au Nord Kivu, où la ville de Goma accueille ce mardi la toute première réunion du comité de pilotage du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC, Star-Est. En séjour à Goma depuis ce lundi 5 août 2024, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, préside cette réunion. L'objectif, selon lui, est de lancer officiellement les projets en amenant les bénéficiaires à s'en approprier. Bernardin Nyangui.
Lancé en novembre 2023, ce projet quinquennal sera exécuté dans au moins 14 territoires de province du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri. Il prévoit de réhabiliter les infrastructures socio-économiques et de promouvoir la réinsertion des ex-combattants sortis de groupes armés dans ces entités, entre autres. L'atelier tenu ce mardi à Goma vise ainsi à donner officiellement le coup d'envoi des activités, a dit le vice-premier ministre de l'Intérieur. Écoutons Jacquemain Chabani.
L'objectif de l'atelier est premièrement d'assurer le lancement du projet, favorisant l'appropriation du projet par les bénéficiaires directs et indirects, ainsi que les parties prenantes. Deuxièmement, organiser la première réunion du comité de pilotage pour la validation du plan de travail et budget annuel pour l'exercice 2024.
Rappelons que le gouvernement congolais bénéficie d'un prêt d'environ 250 millions de dollars des partenaires, entre autres la Banque mondiale, pour le financement de ce projet. Celui-ci reste confronté cependant aux menaces de la rébellion du M23 dans au moins 4 territoires bénéficiaires. Ce sont entre autres les territoires de Lubero, Masisi, Rutshuru pour le Nord Kivu ainsi que Calais pour le Sud Kivu. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, cela fait plus de 20 mois que les 40 agents de l'antenne de Lubero-Butembo du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS n'ont pas touché leur salaire. Le lundi passé, ils sont entrés dans leur troisième semaine de sit-in devant leur bureau de Butembo afin de réclamer les paiements de leurs arriérés des salaires. Malgré leur situation, ces agents continuent à assurer un service minimum, a indiqué Mumbere Mugeni Amini, le chef des services sensibilisation, communication et médias. Il explique au téléphone d'André Kitenge.
Les agents du PDDRCS antenne de Lubero, tout comme la ville de Butembo, continuent avec les sit-ins autour du fait. Et aujourd'hui, nous venons d'atteindre plus de 22 mois impayés, c'est-à-dire nous sommes maintenant dans le 23e mois. Et nous n'allons pas quitter ici. Voilà que nous sommes devenus victimes de notre prestation au sein d'une institution qui prône vraiment la pacification. Nous demandons à tous les partenaires qui travaillent avec le PDDRCS, à la communauté internationale, pour que ces derniers aussi puissent plaider afin que les agents du PDDRCS de l'antenne de Lubero-Butembo soient vraiment payés à totalité. C'est pourquoi nous continuons toujours à allumer le feu et nous sommes là en train même de recevoir certains combattants qui sont fatigués même de la guerre et qui sont en train de nous rejoindre. C'est pourquoi nous montrons aux gens qu'il y a un service minimum qui est en train de se faire.
Parlons santé à présent. En RDC et plus particulièrement au Sud Kivu, le nombre de cas de monkeypox est en augmentation depuis plus de 2 ans. Médecins sans frontières constatent que les choses se sont aggravées ces derniers mois avec une explosion du nombre de cas. Jean Kassami a exploité les rapports de MSF. Voici son reportage.
D'après Médecins sans frontières, la maladie est reconnue comme endémique dans 11 de 26 provinces du pays. Le nombre des cas a triplé en 2023 avec plus de 14 600 cas suspects notifiés et 654 décès. En 2024, la situation s'est encore aggravée. De janvier à la mi-juillet, plus de 12 300 cas suspects ont été notifiés et 23 provinces affectées. L'accélération de l'épidémie est inquiétante, d'autant plus qu'une mutation génétique a été identifiée au Sud Kivu avec désormais une transmission d'humain à humain. Un autre motif d'inquiétude est que la maladie a été enregistrée dans le camp des déplacés autour de Goma au Nord Kivu, où l'extrême densité de la population rend, selon MSF-RDC, la situation très critique. MSF appelle à une mobilisation de tous les acteurs afin de s'investir dans la riposte et que les populations les plus à risque soient protégées au plus vite par la vaccination. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
En Ituri, 3 éléments d'autodéfense, Zahir, qui serait de connivence avec les rebelles du M23, sont aux arrêts et 3 autres interpellés. C'est les premiers résultats des enquêtes en cours menées à Chomia par l'auditorat supérieur près la cour militaire. Cela après les attaques simultanées de ces groupes armés contre les positions des militaires de la force navale le mercredi 31 juillet dernier à Kasseni et Chomia sur les littorales du lac Albert. Ils sont poursuivis pour crimes de guerre, par meurtre et participation à un mouvement insurrectionnel. Martial Kizabiamungu.
D'après des sources judiciaires, des jeunes appartenant au groupe d'autodéfense Zahir se sont organisés pour attaquer simultanément mercredi 31 juillet les positions de la force navale à Kasseni et Chomia. L'objectif, selon les enquêteurs, était de se ravitailler en armement et munitions pour déloger les forces loyalistes dans toute la région située sur les littorales du lac Albert à la frontière lacustre avec l'Ouganda. Cela après avoir reçu la formation militaire par les instructeurs rwandais proches du M23 à Abwa, à quelques kilomètres de Tchomia. Tibassi Magabunga, Patrick, un des miliciens Zaïr, a réussi à s'échapper le jour de l'attaque de Tchomia, appelle ses compagnons d'armes à se rendre aux autorités pour contribuer à la paix dans la région.
Les Rwandais, aussitôt arrivés, ils nous ont formés pendant des semaines. En attendant l'arrivée des munitions du Rwanda, ils nous ont donné la mission d'aller attaquer les états-majors de la force navale à Kasenyi et Tchomia en vue de récupérer leurs armes et nous les distribuer. Le conseil que je leur donne est de remettre les armes pour que la population vive en paix.
L'avocat général à l'auditorat supérieur militaire indique qu'une information judiciaire est ouverte contre le général autoproclamé de cette milice Mandro, l'ancien seigneur de guerre chef Kawa Pangamandro en fuite Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Congo central, le checkpoint érigé par le service de sécurité sur la route nationale numéro 1 pour contrôler les mouvements d'entrée et de sortie des personnes depuis la dernière tentative de coup d'État manqué font grincer les dents. Pour les voyageurs qui les dénoncent, ces lieux sont devenus des véritables sources de tracasseries pour les usagers de la RN1 Kinshasa Matadi. D'après les témoignages recueillis, cette opération qui en principe vise l'identification des passagers s'est transformée en une activité lucrative pour les agents de sécurité commis à cette tâche. Les points avec Nana Plurich Mambou.
Depuis la dernière tentative de coup d'État au Palais de la Nation le 19 mai dernier, les services de sécurité ont érigé des barrières sur plusieurs points stratégiques. Ici s'effectue un contrôle systématique de tout passager pour vérification des pièces d'identité comme les passeports, cartes d'électeur et autres documents valides. Cependant, plusieurs usagers de cette route affirment que dans ce checkpoint, les voyageurs qui ne possèdent aucun document d'identité sont soumis au paiement d'une somme forfaitaire pour ne pas se faire arrêter. Témoignage.
Je suis rentré à la maison sans même une chouane pour mes enfants parce que partant de Kinshasa pour atteindre Matadi, j'ai été arrêté dans 5 barrières. Et dans Chankine, j'ai payé 2000 francs.
Agacé par cette pratique, ces derniers invitent les autorités à y mettre de l'ordre. Ils demandent aussi à l'ONIP de disponibiliser rapidement la nouvelle carte d'identité pour permettre à la population de se soumettre aisément à cet exercice de contrôle.
Depuis que le gouvernement, à travers l'ONIP, a promis aux Congolais la nouvelle carte d'identité, ça fait bientôt 6 mois. On n'a toujours pas cette carte. Et pourtant, les Congolais se promènent avec des papiers. Ce sont des papiers parce que dans cette carte de lecteur, il n'y a plus de photos, non plus des écrits.
Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, les restes d'une femme et de son enfant ont été retrouvés ce lundi au village Kilindila sur les littorales du lac Tanganyika dans le territoire des Kalemie. D'après l'administrateur du territoire, il s'agit des victimes qui ont été happées par un crocodile ce dimanche. Elles se sont rendues au lac pour puiser de l'eau. John Mutombo rappelle à la population de sa juridiction que c'est dangereux de fréquenter les lacs après 17 heures. On l'écoute dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
C'est un sentiment de tristesse. Je suis vraiment profondément touché de la perte d'une maman et un enfant. J'avais demandé à la population de ne plus fréquenter les lacs à partir de 17 heures. Puisque vous savez, ces bêtes souvent, c'est vers ces heures-là qui commencent aussi à circuler. Et tout ça, bon, c'est arrivé. Ce n'est pas quelque chose là qu'il faut négliger. Ça commence un peu à me déranger un peu psychologiquement. Mais j'avais envoyé les lettres de refoulement, ça fait déjà un mois. Ce que moi je peux demander à la population, c'est de plus vraiment fréquenter les lacs à partir de 17 heures. Vraiment, c'est très important pour se protéger.
C'est pour très bientôt le lancement de l'opération coup de poing visant notamment l'assainissement de la ville de Kinshasa. Le gouverneur de province poursuit ses contacts en vue de sa réussite. Il s'est entretenu hier lundi avec le directeur général de l'Office de voirie et drainage. Ce dernier a promis l'accompagnement de ses services. Une équipe de l'OVD devrait intégrer cette semaine celle mise en place pour cela par le gouverneur Daniel Bumba. Le DG Victor Toumba revient sur l'essentiel de leur entretien et l'apport de son office. C'est dans cet extrait choisi par Babel Pongo Massimango.
Son Excellence Monsieur le Gouverneur souhaiterait que nous, l'OVD, puissions l'accompagner dans son programme de coup de poing. On a échangé sur les différentes stratégies à mener pour arriver à des objectifs qu'il s'est tracés. Parce que dans ces programmes de coup de poing, il y a les kirages, il y a les problèmes de salubrité, il y a les problèmes de réhabilitation de voiries, il y a les problèmes de traitement des déchets. Vous savez que la ville produit plus ou moins 15 000 tonnes de déchets par jour. Il faut, au regard de l'insalubrité dans cette ville, voir quelles sont les stratégies ensemble que nous pouvons définir afin de surmonter toutes ces difficultés. Et je me suis trouvé au devant de quelqu'un qui a une vision de pouvoir rendre cette ville salible. À ce qui concerne le traitement des déchets, nous avons échangé sur les décharges et nous avons promis de pouvoir nous rencontrer. Il y a nos équipes qui vont rejoindre l'équipe qu'il a mis en place pour pouvoir fignoler davantage les différentes stratégies. Et nous avons aussi regardé ensemble avec lui quelles seront les approches pour la réhabilitation des voiries.
Actualité internationale.
En Angleterre, la soirée du lundi 5 août a encore été émaillée d'incidents violents une semaine après que trois fillettes ont été tuées dans une attaque au couteau dans le nord-ouest du pays. Ces drames ont donné lieu à de nombreuses rumeurs et à de la désinformation sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la religion ou l'origine de l'agresseur présumé. Le premier ministre britannique a promis que les casseurs anti-migrants et islamophobes regretteraient leurs actes.
L'invité.
Expert en audit interne, Luc Kabunangu encourage les missions de contrôle et suivi des entreprises dans les secteurs de la sous-traitance. Invité de Radio Okapi ce mardi, il estime que cela permettra aux régulateurs de ces secteurs de prendre des sanctions à l'endroit des réfractaires aux lois édictées par l'État. Luc Kabunangu souhaite également que ces secteurs de la sous-traitance assurent la protection des emplois des Congolais et réduisent la pauvreté en facilitant l'émergence d'une classe moyenne au pays. Il répond aux questions de Blaise Ndong.
Bonjour Monsieur Luc Kabunangu.
Bonjour Monsieur Blaise.
Quelle est selon vous l'importance de la sous-traitance dans un pays à économie extravertie comme la RDC?
On a constaté que l'économie est pratiquement entièrement contrôlée par des étrangers. Et cela a différentes conséquences, entre autres sur la pauvreté de la population congolaise en général, mais aussi sur l'emploi. Les dirigeants du pays avait trouvé comme solution pour corriger ce déséquilibre de voter une loi qui permette à ce qu'on puisse ouvrir la participation des Congolais. Parce qu'on a constaté que l'économie était plus contrôlée par
les étrangers.
Et ainsi, on a passé la loi qui fixe les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, qui avait trois missions principales, mais l'une des missions, c'est celle d'ouvrir les marchés, de sécuriser certains marchés d'affaires qu'on appelle des marchés de sous-traitance, donc des activités annexes à l'activité principale d'une entreprise ou des activités connexes que l'entreprise choisit de céder aux entreprises tierces à sa place pour les exécuter. L'importance de cela, comme je l'ai dit, c'est justement pour redresser un peu le déséquilibre et commencer à créer de la richesse locale, créer de l'emploi pour les Congolais et pourquoi pas, en faisant la promotion de la petite et moyenne entreprise, arriver à élever aussi des capitaines d'industrie congolais.
Vous êtes expert en sous-traitance, expert en audit interne et externe. Quel bilan dressez-vous de la sous-traitance congolaise?
Par observation, analyse et le suivi que nous faisons sur le secteur, nous pensons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire parce que vous vous rendrez compte, à ce jour, nous n'avons jamais eu de rapport compréhensif de la part de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, qui est l'entité à qui a été dévolue la mission de veiller à l'application effective de cette loi. On nous a parlé il n'y a pas longtemps des rapports partiels, mais nous ne voyons rien clairement. Et si nous essayons d'évaluer, parce que l'estimation est que le secteur de sous-traitance, le secteur privé, commande un chiffre d'affaires de plus ou moins 10 milliards de dollars à 15 milliards de dollars. Donc ce sont toutes ces affaires qui devraient normalement être sécurisé, dirigé vers les Congolais qui devaient passer entre les mains des entrepreneurs congolais. Mais si nous faisons l'évaluation par observation, nous doutons même que nous puissions arriver à 2 milliards de dollars qui passent entre les mains des Congolais.
Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour changer exactement les fusils d'épaule?
Je pense que nous devons nous assurer aussi d'un bon management du secteur qui puisse veiller à ce que la mission soit réalisée. Et à partir du bon management, on peut commencer à toucher des questions spécifiques. Je pense déjà, en étant dans l'expertise dans le secteur, il y a les questions de contrôle. Nous n'avons jamais su quel est l'univers total de contrôle de la sous-traitance dans le secteur privé. De deux, combien de missions de contrôle que nous devons réaliser l'année, par exemple, nous n'avons pas ces détails. Ce que nous ne savons pas aussi, c'est que combien de contrôles il y a eu sur une période spécifique. On n'a jamais eu cette information-là. On n'a jamais entendu des sanctions appliquées à quiconque qui ne respecte pas la loi.
Si on vous demandait de prodiguer des conseils au régulateur national, qu'est-ce que vous diriez?
Au niveau du contrôle, nous devons savoir qui est-ce que nous contrôlons et quelle est la capacité que nous devons avoir pour contrôler et quels sont les tests de contrôle que nous devons réaliser. Et le contenu local va au-delà du secteur privé. Donc on veut vraiment promouvoir les ressources locales, que ce soit le capital humain, là où nous avons la main d'œuvre, là où nous avons tous nos travailleurs, toutes nos compétences. Nous voulons sécuriser la place des Congolais avant d'importer la main d'œuvre extérieure.
Monsieur Lick Kabunangu, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, Monsieur Blaise.
C'est par ici que nous bouclons cette session d'actualité sur Radio Kapi, mise en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa, supervisée et coordonnée par Pele Kipelamondo et Jude Bilandankumar. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.